Vous écoutez, on lit pour vous.
Caitlin Clark, Le Phénomène. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 5 avril 2024 dans la presse. Vous avez certainement entendu son nom ces derniers jours. Caitlin Clark est partout. Son match du lundi 1er avril 2024 dans l'Elite 8 du March Madness a attiré 12,3 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le duel le plus regardé de l'histoire du basketball collégial féminin. Tour d'horizon du phénomène Clark, qui révolutionne actuellement le sport féminin, voire le sport tout court. Il est difficile de décrire ce que Clark est actuellement en train de réaliser et de créer au sud de la frontière. Du haut de ses 22 ans, la meneuse attire les foules partout où elle passe. Son nom est sur toutes les lèvres dans le monde du basketball. En bref, elle est la star du moment, tout sport confondu. Tentons de vous faire comprendre pourquoi. L'effet d'arme de Clark, dans sa carrière de 5 saisons avec les Hawkeyes de l'Iowa, en Division 1 de la NCAA, sont si nombreux qu'on ne peut tous les répertorier. On serait encore ici demain matin. Clark vient d'être nommée joueuse de l'année du basketball collégial pour la 2e saison consécutive. Avec ses 3900 points en carrière, elle est la plus grande pointeuse de l'histoire de la NCAA, hommes et femmes confondus. À titre indicatif, pour saisir pleinement l'ampleur de l'exploit, le record appartenait à Pete Maravich, 3667 points, depuis 54 ans. Curry au féminin. Caitlin Clark a inscrit jusqu'ici 1183 points en 37 matchs, en moyenne 32 points par partie, cette saison, ce qui constitue un autre record de la NCAA du côté féminin cette fois. La native de l'Iowa est absolument redoutable quand elle s'amène le long de la ligne de 3 points. On plaint ceux qui tentent de la contrer. Elle est la Steph Curry au féminin. Elle peut lancer mieux que moi, a récemment dit le joueur vedette de la NBA, Luka Doncic, dans une entrevue partagée par différents médias sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Clark a battu le record de Curry pour le nombre de paniers de 3 points en une saison dans la NCAA. La vedette des Warriors de Golden State en avait inscrit 162 avec les Wildcats de l'Université Davidson lors de la saison 2007-2008, alors que Clark en a enfilé 193 cette saison. La vérité, c'est que Caitlin Clark n'a pas à être comparée à quiconque. Elle n'est la version féminine d'aucun homme. Elle est une nouvelle icône du sport, point. Une passeuse. Vous l'aurez compris, Clark excelle quand vient le temps de lancer le ballon. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi une grande passeuse. Elle est l'une des 5 joueuses de l'histoire à avoir amassé 1000 passes en carrière dans le circuit collégial. Certaines joueuses doivent jalouser ses coéquipières. Clark est d'ailleurs la première joueuse en Division 1 de la NCAA, hommes et femmes confondus, à mener sa conférence pour les points et les mentions d'aide dans 4 saisons consécutives. Dans la campagne actuelle, elle a accumulé 334 passes, soit 88 de plus que la suivante au classement, Nika Moule de l'Université du Connecticut. Ça va? Vous êtes toujours là? Pour toutes les raisons que l'on vient d'énumérer, Caitlin Clark devrait être la première sélection du prochain repêchage de la WNBA qui appartient au Fever d'Indiana. Popularité étourdissante. On le disait plus haut, Pas moins de 12,3 millions de téléspectateurs ont regardé le dernier match de Clark dans l'Elite Eight du March Madness. Ces Hawkeyes affrontaient les Tigers de l'Université d'État de la Louisiane, pour lesquels évolue Angel Reese, elle aussi une étoile en pleine gloire, suivie par près de 3 millions de personnes sur Instagram. Une rivalité s'est créée entre les deux joueuses en 2023 lors du match de championnat national, ce qui explique en partie l'engouement national pour le duel du lundi 1er avril 2024. Pas de doute, le basketball féminin attire tous les regards présentement. Le vedettariat de Caitlin Clark s'étend bien au-delà du basketball. La popularité de l'Américaine est étourdissante. Elle a signé des partenariats avec plusieurs grandes marques telles Gatorade, Nike et State Farm, qui lui rapportent gros. Selon le site ON3, qui calcule la valeur des athlètes collégiaux à partir de leur entente NIL, Name, Image and Likeness, la valeur de Clark s'élève à 3,2 millions de dollars. L'athlète, au charisme indéniable, a d'ailleurs 1,4 million d'abonnés sur Instagram et 211 000 abonnés sur TikTok. Elle attire des vedettes dans les gradins, comme le rappeur Travis Scott et l'acteur Jason Sudeikis, qui se sont déplacés plus d'une fois pour aller la voir à l'œuvre. Notons également que, selon The Athletic, Clark a reçu une offre de 5 millions de dollars pour se joindre à la ligue Big Three, cofondée par le rappeur Ice Cube et Jeff Quatinetz. Dans l'éventualité où elle accepte ladite offre, elle serait la première femme à y jouer. C'était Caitlin Clark, Le Phénomène, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 5 avril 2024 dans La Presse.
Prendre le temps. Un texte de Brigitte Deschênes et Chantal Tremblay, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Qui est le mieux placé pour savoir que la mort bouleverse et chamboule tous les êtres? Qui? Tout le monde y fait pourtant face un jour ou l'autre. Et les réactions sont variées quand la fatalité frappe. Celui-là, comme le saule, reste inconsolable. Celle-là demeure stoïque. Plusieurs se sentent perdus. Quelques-unes deviennent amères. D'autres encore n'arrivent pas à y croire. Toutes ces réactions sont légitimes. Les professionnels en rituel funéraire, PRF, interviennent à un bien mauvais moment dans la vie des gens. Leur rôle véritable est bien plus noble que ce que l'on pense. Ils sont là pour accueillir, pour écouter, pour consoler, pour servir, pour aiguiller, pour aider les familles à traverser cette épreuve dans le respect et la dignité. Les PRF sont là aussi pour remettre en question ce que, collectivement, nous voulons faire de nos morts. Parce que, de plus en plus, les rituels sont bâclés par manque de temps ou de considération pour nos morts ou pour ce qu'ils ont été de leur vivant. De plus en plus fréquemment, les gens signent des contrats de préarrangement dans lesquels ils promettent qu'ils ne veulent rien. Pas d'embaumement, pas d'exposition, pas de funérailles, rien. Et ce, sans aucune considération pour les proches. La peur de déranger, la peur de représenter un fardeau et, ou, l'isolement social sont souvent des facteurs qui influencent les personnes âgées lors de leur choix de préarrangement. Nous avons le devoir, en tant que PRF, de bien conseiller les personnes avant qu'elles choisissent leur rituel, car ceux-ci auront une incidence considérable sur la suite des choses. Dans une collectivité qui veut préserver sa santé mentale et en prendre bien soin, on pourrait commencer par prendre le temps de pleurer nos morts. C'était « Prendre le temps », un texte de Brigitte Deschênes et Chantal Tremblay, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir.
Vian et le côté pointu de la Lune. Une chronique de Robert Lévesque, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Vian aimait les titres farfelus. L'écume des jours, ça veut dire quoi au juste? L'automne à Pékin, dont l'histoire ne se passe ni à l'automne ni en Chine. Vers coquin et le plancton, l'herbe rouge, vous avez déjà vu? C'était où ce trouble dans les Andins? Ceux de son théâtre, un radical barbu, ciné-massacre, l'écarissage pour tous, ça tout de même, j'aimais le pour tous. Comme dans « On tuera tous les affreux », follement ravageur. Et côté poésie, c'est quand Hélène Angelé, ça s'écoute, ça se mange. Et ses chansons, rare sobriété avec le déserteur, mais que penser de « La Java des chaussettes à clous » Ça se danse comment? Je me suis remis à Boris Vian cet automne à Montréal, et j'ai rigolé. Boris Vian et en sous-main Vernon Sullivan, cet auteur américain, en italique, qui lui fit de l'ombre et lui causa des emmerdes, mais qui fit rentrer de l'oseille, il vendit plus d'exemplaires que lui, alors que c'était lui le Vernon et le Sullivan. On soupçonna vite le subterfuge, même s'il prétendait qu'il n'était que le traducteur d'un manuscrit, « J'irai cracher sur vos tombes », autre titre Barjo, qu'un écrivain à Merloc, noir et alcoolique, n'osait pas publier aux États-Unis par rapport à la censure, car il y avait des scènes de sexe en veux-tu en voilà, des meurtres sous allure de règlement de compte avec les racistes blancs. Lee Anderson, son insidieux héros, était de race noire et ça ne se voyait pas question pigmentation. Un nègre blanc d'Amérique, on va dire en ne craignant pas l'opprobre de ceux-là, on disait qu'ils avaient passé la ligne, et qui, parce que des Blancs du Sud avaient lynché son frérot, préparait patiemment une vengeance et passait à l'acte en expédiant dans l'au-delà deux belles filles rencontrées par hasard, des sœurs, du deux pour un, choisies pour leur sexe à pile et n'ayant aucun rapport avec le meurtre du cadet, deux gonzesses friquées qu'ils baisent abondamment, à tour de rôle et à satiété, et qu'il zigouille sans état d'âme et pas peu fier du plaisir posthume procuré à son frangin. Relire « J'irai cracher sur vos tombes » aujourd'hui, à l'époque du wokisme, c'est du régal, de la rareté. On réalise à quel point le monde est fondamentalement cruel et à quel point le cher Boris Vian pouvait avoir du culot et de l'assurance en son temps pour en témoigner au sortir de la Seconde Guerre mondiale, par rapport à ce qui peut s'écrire et ce qui s'écrit maintenant sous le contrôle de Sensitivity Readers, des mineurs éditoriaux, chiens de garde du bien écrit, pillons de l'écrit bien. La poésie foule camp vilon, chantait Ferré jadis. Que chanterait-il aujourd'hui? Ferré qui, comme Brassens et le jeune Gainsbourg, avait repéré Vian alors que le bison ravi n'avait pas encore d'audience, ses romans signés de son nom, son prénom en référence à celui de Godounov, comme l'a décidé sa mère mélomane, restait dans le bac, aux invendus, quand ceux de Vernon Sullivan faisaient un tabac. Le même Vian qui, quand il se mit à chanter ses textes, se faisait chahuter, mais ce Vian-là était un véritable écrivain, un poète, un artiste qui n'était pas là pour se faire engueuler et qui devait ramer, galérer, alors qu'aujourd'hui il est à demeure dans la Pléiade, deux tomes de papier micelle, la classe. Aujourd'hui, le pote à Sartre, Jean-Sol Partre de l'écume, l'existentialiste qui lui piqua sa femme, le voisin de Prévert dans la montmartroise cité Véron, le voilà bien vengé, le nez cardiaque. Après sa mort, la jeunesse qui poussa l'a lu et l'a aimé, quant à la vieillesse, il ne l'aura pas connue, c'est la baraka au fond, et je salue bien bas le grand échalas au teint blême qui ne voulait pas crever avant d'accomplir un programme d'activités diverses comme, entre autres, voir les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver et les singes à cul nus, mais que la mort a saisi à 39 ans lorsqu'il visionnait au Petit Marbeuf le film de merde qui adaptait sans génie, sans son accord mais avec son nom au générique, « J'irai cracher sur vos tombes ». Un bouquin bien tourné vient de ramener le Boris sous les hardes de ce Vernon Sullivan imaginaire qui, s'il lui a permis de régler ses dettes courantes, lui a causé bien des embuscailles, dont un procès aux assises, à l'instar de Baudelaire et de Flaubert, et une amende de 100 000 francs pour outrage aux bonnes mœurs. « Je vais te le faire, moi, ton best-seller », avait-il dit en 1946 à un ami éditeur, Jean Dalluin au Scorpion, qui occupait un bureau sombre de la rue Blanche, lui proposant de traduire un roman américain, car ce qui était américain dans Paris libéré partait gagnant. Boris lui avait écrit en 15 jours et en vacances en Vendée une soi-disant traduction française d'un roman américain imaginé par lui qui n'avait jamais mis les pieds en Amérique. Beau cas de sissiparité littéraire, d'un côté celui qui fait des sous avec de l'outrage, de l'autre celui demeuré aux invendus avec du farfelu et du poético-anard. La belle affaire, la belle histoire, qui se termine bien devant l'Éternel car, après sa mort, Vian obtint la reconnaissance qu'il méritait, le sans le sou est devenu un classique, casé entre Jules Verne et Théophile de Viaud dans l'Édico, et Sullivan est mort sans sépulture du fait qu'il n'a pas existé car le bison repenti avait fini par admettre devant un juge d'instruction que, oui, Vernon Sullivan, c'est moi. Dimitri Kantchalov, ex-guitariste de groupe rock, né deux décennies après la mort du prince Zazou, nous résume tout ça dans un tombeau jazzé, brossé à la légère, vif et vianesque sur les bords. Vie et mort de Vernon Sullivan est un petit bouquin qui est avant tout un salut à l'artiste, celui qu'on aime, le snob qui fréquentait des baronnes au nom comme des trombones, celui qui creva avant d'avoir mis son zob dans des coins tout bizarres, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards et sans savoir si la lune avait un côté pointu. C'était « Vian et le côté pointu de la lune », une chronique de Robert Lévesque parue le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ».
Le vélo électrique en trois questions. Un texte de Simon Diotte paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage. Que ce soit pour faire la navette, parcourir plus de distance lors de vos balades du dimanche ou maintenir la vitesse à laquelle vous aviez l'habitude de rouler, le vélo électrique peut répondre à plusieurs besoins. Vous pensez prendre ce virage ce printemps? Voici quelques conseils à lire avant de monter en selle. Les vélos à assistance électrique, VAE, on les snob jusqu'à temps qu'on les essaye, commente David Tringle, directeur des achats aux boutiques Lacordée, chaîne qui compte 8 magasins à travers le Québec. On peut trouver que leur utilisation relève de la paresse, qu'il ne s'agit pas de vrai cyclisme ou qu'il coûte la peau des fesses. Tous les arguments sont bons pour les décrier, mais la résistance au changement s'évanouit comme par magie dès qu'on en enfourche un. Quel plaisir de pédaler avec un vent constant dans le dos, alors que la force du moteur abolit le relief, dit David Tringle, qui a pourtant tout d'un cycliste de haut niveau. 1. Ça coûte cher? Avec les VAE, le moteur amplifie la puissance du pédalage. Ils séduisent les masses, peu importe leur âge, avec la possibilité d'augmenter le kilométrage des sorties ou de continuer à pédaler quand le corps montre des signes de fatigue. Ainsi, ils rendent le cyclisme plus accessible. Cette accessibilité a cependant un prix. Un VAE de qualité coûte au moins 2 500 $ et peut dépasser largement les 5 000 $. Il existe des solutions de rechange à meilleur marché dans les grandes surfaces, mais vous allez payer en autonomie plus faible et en produits de qualité inférieure, comme des systèmes de freinage moins efficaces, met en garde Jacques Sénécaël, rédacteur en chef de Vélomag. Autre élément à considérer, les grandes surfaces n'offrent pas de service de mécanique en cas de problème. C'est un pensez-y bien. La raison qui explique le prix élevé des VAE, c'est le coût de la batterie. Par exemple, celle pour les vélos Trek coûte 1 $ l'unité. Ceux qui dorment la pilule, c'est que les VAE se vendent généralement avec un équipement complet. Ce sont des vélos clés en main, tout est inclus. Feu avant et arrière intégrés, garde-boue, porte-bagages et béquilles, au contraire d'un vélo traditionnel où tout se vend séparément, ce qui fait grimper le coût final, explique Bastien Major, responsable marketing chez De Vinci, un fabricant de vélos basé à Saguenay. Sa recommandation? Faites l'essai d'un VAE avant d'en acheter un. La plupart des boutiques spécialisées offrent cette possibilité. 2. Comment ça fonctionne? Il existe deux types de moteurs électriques. Celui qui se situe dans le pédalier, donc au centre du vélo, et l'autre qui se cache dans le moyeu de la roue arrière, beaucoup moins apparent. Le premier domine actuellement le marché, car il offre plus de puissance et une meilleure autonomie. Il offre aussi une sensation plus proche du vélo à propulsion humaine, soutient David Tringle. Par contre, les VAE à transmission arrière se taillent une place dans le marché des vélos de performance, car ces cyclistes recherchent un vélo plus léger, quitte à sacrifier sur la puissance du moteur. Au contraire des vélos avec moteur pédalier, qui sont très lourds, les vélos avec le moteur dans le moyeu se pédalent confortablement, même quand la batterie est à plat, dit Jacques Sénécaël. Bref, moins de stress de tomber en panne sèche. La sensation au pédalage est cependant moins fluide. Le moteur fonctionne plus par à-coups, ajoute le rédacteur en chef. 3. Quelle autonomie? Comme dans le milieu de l'automobile, la question qui taraude tous les consommateurs, c'est l'autonomie de la batterie. Le hic, c'est que celle-ci ne s'estime pas facilement. Il y a tellement d'éléments qui affectent l'autonomie, comme la température, le vent, les côtes, la surface de roulement, le niveau de l'assistance. Plus on pousse le moteur électrique à fond, plus la batterie est mise à contribution. Le poids du vélo, etc., dit Bastien Major. En règle générale, il est possible de faire au moins 30 km avec un VAE en mode d'assistance élevée ou plus d'une centaine en mode économique. La durée de vie d'une batterie de bonne qualité s'étire sur des années. Par exemple, celle équipant les vélos Trek peut subir de 800 à 1000 recharges. Comme un vélo musculaire, un VAE a besoin d'un entretien régulier. Il faut porter une attention plus particulière aux freins, à la chaîne et à la cassette, l'ensemble des pignons sur la roue arrière, car on roule plus vite en VAE et les montures sont plus lourdes, dit David Tringle de la Cordée. En Suisse, on remarque une hausse des accidents en raison de la popularité des VAE. En effet, le mélange de vitesse et d'inexpérience au guidon génère beaucoup d'accidents, d'où l'importance d'avoir des freins efficaces. Trottinette électrique. Attirant une clientèle plutôt urbaine, les trottinettes électriques pour adultes continuent à faire le plein d'adeptes d'année en année. Ces machines à deux roues, dont les prix de vente oscillent de 500 $ à 1 500 sont désormais permises sur les routes du Québec. Là où la vitesse est inférieure à 50 km/h, il faut porter un casque et ne pas dépasser 25 km/h. Le critère le plus important à regarder en magasinant, c'est l'autonomie de la batterie, élément que vous devez prendre en considération selon les déplacements prévus. Habituellement, chaque kilomètre d'autonomie supplémentaire se fait ressentir sur la facture finale. Plus la trottinette est imposante, plus elle offrira un confort de roulement. En contrepartie, elle sera plus lourde à transporter. Les pneus durs sont increvables, tandis que les pneus gonflables absorbent plus efficacement les vibrations. Attention, les accidents en trottinette ne sont pas couverts par la SAAQ, sauf s'ils impliquent une voiture en mouvement. La prudence est de mise. C'était « Le vélo électrique en trois questions », un texte de Simon Diot paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage.
Dix gestes gratuits à poser pour économiser de l'électricité. Un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine Bel Âge. 1. Utiliser la bouilloire électrique pour une économie d'énergie de 40% à 70% par rapport au rond de cuisinière. 2. Se servir du four grille-pain puisqu'il consomme deux fois moins d'énergie que le four de la cuisinière pour la même durée de cuisson. 3. Privilégier le four à micro-ondes plutôt que le four de la cuisinière car il dépense cinq fois moins d'énergie. 4. Opter pour le cycle de séchage sans chaleur ou à l'air de son lave-vaisselle peut en diminuer la consommation d'énergie de 15% à 20%. 5. Choisir le cycle de refroidissement pour le séchage du linge. Plus économique, il prévient également le froissement car il termine le séchage à l'air frais. 6. Limiter l'auto-nettoyage du four puisque c'est très énergivore. 7. Ne pas laisser le réfrigérateur vide afin d'empêcher l'usure prématurée du compresseur. 8. Réduire la température des pièces inoccupées et garder la porte fermée. 9. Ne pas laisser couler le robinet pendant le brossage des dents, le rasage ou le lavage du visage ou des mains. 10. Évitez l'achat d'un deuxième congélateur, puisqu'il est aussi énergivore que le frigo. En cas de nécessité, on choisit un modèle horizontal qui consomme moins que les modèles verticaux. Pour les besoins de congélation, il faut compter environ un demi-pied cube par occupant. C'était 10 gestes gratuits à poser pour économiser de l'électricité. Un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine Bel Âge.